Les coqs chantent et les jours paraissent, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, le coq chante vous emmène dans l'unité pastorale de Medina Salam. Cette unité pastorale fait partie de l'antenne de Kungel du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Administrativement, Medina Salam est une localité située à environ une centaine de kilomètres de la commune de Kungel, dans la région de Kaffrine. Au Sénégal, la zone sylvo-pastorale couvre une superficie de 70 000 km² avec une pluviométrie variant entre 200 et 300 mm par an. Ressources en eau limitées, nappes phréatiques profondes et saison des pluies limitées dans le temps. Il y a bien sûr des savoir-faire traditionnels qui ont permis à l'élevage de perdurer dans cette zone. Mais aujourd'hui, il faut ajouter la dégradation des ressources naturelles due en grande partie à la pression démographique et la persistance de pratiques de gestion non durable, ce qui a incité le ministère de l'Élevage et des Productions Animales à privilégier la politique des unités pastorales. Une unité pastorale est avant tout un instrument de pilotage et d'animation à la disposition des communautés. C'est un espace géographique centré sur un forage où vivent des populations exploitant les mêmes ressources et exploitant les points d'eau, que ce soit des mares, des puits pastoraux ou des forages. Nous sommes accueillis par Hassan Gueye, qui est président de l'unité pastorale de Medina Salam.
Unité pastorale, c'est un regroupement de villages qui est polarisé par l'UP lui-même, le village centre qui s'appelle Medina Salam. Cette UP, c'est 22 villages. C'est-à-dire qu'il y a un point d'eau, il y a aussi un parc de vaccination, il y a aussi un magasin de bétail aliment et il y a aussi toutes les infrastructures nécessaires pour le pâturage des animaux. C'est ça qu'on appelle l'UP.
Ah donc l'unité pastorale, c'est plusieurs villages. C'est pour ça que quand on a pris la route, on a vu des magasins d'aliments, on a vu des postes vétérinaires et on est arrivé ici, on a vu les points d'approvisionnement en eau. Et il y a des pistes de transhumance.
Effectivement. Il y a aussi des zones de pâturage. Voilà, c'est ça, tout ça qui regroupe l'unité pastorale. Quand on définit une unité pastorale, il faut des caractéristiques. Ces caractéristiques-là, il y a aussi des zones de pâturage, des pistes où les transhumants peuvent aller et venir. Il y a aussi les points d'eau, comme vous venez de le dire.
Ah, c'est-à-dire qu'on réunit tout le monde ?
Effectivement.
Agriculteurs, éleveurs, techniciens du PRAPS, du ministère.
Effectivement.
Et on dit, voilà, on va mettre sur pied quelque chose qui va faciliter la vie à tout le monde.
Effectivement.
Et on prend la vie de tout le monde.
Effectivement, voilà. Donc, on réunit tout le monde. Il y a aussi les scientifiques qui vont venir pour voir la cartographie déjà, comment dire, la localité, pour voir est-ce que le site-là, ça peut vraiment abriter cette UP-là. Parce que l'unité pastorale, c'est tout un ensemble. Parce que vous voyez, comme vous venez de dire, il y a un peu du tout, quoi. Parce qu'il y a aussi une boutique où les transhumants peuvent s'approvisionner. C'est une boutique de denrées. Toutes les denrées sont là-bas. Donc, pour définir l'unité pastorale, c'est tout ça là qu'il faut mettre ensemble pour vraiment avoir un ensemble qui va leur permettre de trouver tout ce qu'ils auront besoin pour vraiment le développement de leur cheptel.
Quand on s'est perdu en chemin, on a demandé, les femmes nous ont dit « suivez les animaux ». C'est eux-mêmes qui nous ont amenés à l'abreuvoir. Et le soleil s'est levé, ils ont fini de boire et ils sont partis d'eux-mêmes vers les zones de pâturage.
Effectivement, voilà, effectivement, parce que les animaux, vraiment, ils maîtrisent cette zone maintenant. Ils peuvent venir eux-mêmes, l'abreuvoir, s'abreuver et donc aller vers le pâturage, les zones de pâturage. Effectivement, c'est ça que ça se passe.
Ça veut dire que l'après-midi, s'ils ont soif, les bœufs, tout ça, ils vont revenir.
Ouais, ça aussi, c'est le gérant qui gère ça. Mais il m'a dit que les animaux, ils doivent boire une seule fois dans la journée. C'est ça qu'ils payent.
Ah, parce que l'eau, c'est payant.
C'est payant, effectivement. L'eau, c'est payant. Il y a un tarif forfaitaire qui est appliqué pour chaque cheptel. Pratiquement, prenons l'exemple des bœufs, là, les vaches. Chaque vache, vous payez 175 francs le mois. Chaque vache, 175 francs le mois. Une chèvre ou bien un mouton, c'est 50 francs le mois.
C'est voilà. Mais ce n'est rien, c'est cadeau.
Non, c'est cadeau, vraiment, c'est cadeau. Vous voyez, si vous sortez de l'UP, de l'unité pastorale là, c'est très difficile d'avoir ce prix-là.
Et les animaux sont d'accord avec vous, parce qu'il y en a qui sont venus tout seuls pendant qu'on parle.
Effectivement. Voilà, vous voyez, comme vous le voyez ici, il y a les animaux qui viennent en même temps. Voilà, chaque jour c'est comme ça.
Ils viennent. Ils n'ont même pas besoin de berger.
Oui, pratiquement, ils n'ont pas besoin de baiser parce que les animaux, vous savez qu'il y a des animaux ici partout, ils habitent là-bas, donc ils laissent leurs animaux, ils savent que les animaux connaissent vraiment le lieu pour s'abreuver, donc ils n'ont pas de problème. Parfois, ils n'ont pas de difficulté pour leurs animaux ici, ils les laissent seuls, ils vont venir.
Mais est-ce que vous savez comment c'était avant l'installation de tout ça, comment les gens se débrouillaient?
Avant l'installation de l'UP, c'était un grand village, mais il y avait un seul puits pour les besoins des ménages, mais aussi pour les animaux. Là, on faisait ce qu'on appelle le tirage, parce que vous attelez des bœufs, ensuite vous mettez vraiment une bac à eau derrière pour pouvoir sortir l'eau, pour le verser dans des réservoirs.
Et c'est l'espèce de poulie traditionnelle que je vois.
Exactement.
Et puis on fait tirer par deux bœufs.
Effectivement, voilà, c'est le poulie traditionnel que vous voyez. Ensuite, les deux bœufs vont. Il y a aussi des chevaux parfois qui tirent. C'est ça, c'est l'ancien système, mais vraiment avec l'installation de l'IP, vraiment tout le monde y gagne.
Mais un seul puits, d'abord, c'est pas suffisant pour tous ces villages, ça c'est d'un. C'est pas suffisant pour tous ces bétails. Et le système de puisage que vous m'indiquez là, c'est trop rudimentaire pour satisfaire à tous les besoins.
Effectivement, c'était très rudimentaire et c'était très pénible aussi pour les femmes. Parce que les femmes, pour leur consommation dans les ménages, ils tiraient de l'eau avec leurs propres mains.
Ah, c'est les femmes qui sont chargées de l'approvisionnement en eau.
Voilà, si ce n'était pas les troupeaux, pour les troupeaux, c'est très difficile de le faire avec les mains. Mais si c'était pour leur consommation au niveau des ménages, les femmes le tiraient par leurs propres mains. Voilà, maintenant, si vous avez un gros troupeau, c'est difficile de le tirer par les propres mains. Vous utilisez les vaches là, avec les animaux, les chevaux.
Mais c'est pour ça qu'on voit, on rencontre des femmes avec des sauces d'eau sur la tête.
Effectivement, voilà. Voilà, c'est ça. On rencontre des femmes vraiment qui puisaient de l'eau au niveau du puits pour les amener à la maison. Voilà, pour leur ménage, pour vraiment faire la cuisine et tout ça. Voilà, mais avec le rébut du forage, là aussi, ça c'est estompé, monsieur.
La mise en place d'une unité pastorale doit obéir à certaines normes. D'abord, la demande doit provenir des bénéficiaires ou alors la mise en place doit se faire avec leur consentement. Ensuite, prévoir des sessions de formation sensibilisation pour tous les acteurs, en premier lieu les éleveurs dans les villages. En troisième lieu, prévoir et promouvoir un mode de gestion de l'unité pastorale. Et comme on vient de le voir, la question de l'eau est vitale en zone sylvopastorale. L'objectif ultime, c'est de faciliter la vie aux agriculteurs et faciliter la vie aux éleveurs.
Effectivement, c'est ça l'unité pastorale. Parce que dans l'unité pastorale, vous voyez des agriculteurs, vous voyez aussi des éleveurs. Voilà, c'est tout ça. Donc on aménage vraiment la zone pour que agriculteurs et éleveurs puissent vraiment se retrouver sans problème, sans conflit entre pasteurs et agriculteurs. C'était ça l'objectif. Il y a, parce que chaque UP, il y a aussi un code dans l'UP pour vraiment que tout le monde s'y conforme, pour qu'on puisse vivre en harmonie avec tout ce qui est nécessaire pour le développement de l'agriculture et de l'élevage en même temps.
C'est-à-dire que vous avez discuté longuement jusqu'à adopter un code de bonne conduite.
Effectivement, il y a eu beaucoup de discussions. C'était des discussions sur des assemblées villageoises aussi. On avait aussi convié toutes ces populations-là parce qu'il y a 22 villages qui polarisent l'UP. Il y avait une assemblée générale au niveau de la mairie là-bas, Gentepaté. Vous savez qu'ici, c'est dans la mairie de Gentepaté.
22 villages Gentepaté, c'est là où on s'est arrêté pour prendre l'animatrice là.
Effectivement, c'est là-bas que
l'animatrice. Parce qu'il y a un grand centre de santé là.
Voilà, là-bas c'est Gentepaté, c'est le chef-lieu de la municipalité, quoi. C'est là où se trouve la mairie. Donc les 22 villages là sont des amours des villages qui sont un peu partout. Gentepaté, c'est vraiment le village pilote qui coiffe vraiment tous ces villages au niveau de la commune. Mais aussi, si vous venez de l'IP, c'est Médissalam, le village pilote qui coiffe tous ces 22 villages là.
Et je vous remercie.
Merci beaucoup, je vous remercie.
Voilà, si on peut enlever.
Ça aussi, ça fait partie de la vie des temps humains. Les biscuits, les cafés.
Dans ces régions nord du Sénégal, le pastoralisme est la principale activité et représente environ 35% du produit intérieur brut agricole du pays. Les populations pastorales gèrent l'accès à l'eau dans un contexte de pénurie. On comprend donc pourquoi l'unité pastorale s'articule autour du point d'eau. Le dispositif est composé d'un château d'eau d'une capacité de 150 mètres cubes qui alimente d'autres villages satellites, des bornes fontaines et quatre abreuvoirs. Mokhtar Gueye est le conducteur du forage de Medina Salam.
Waouh, conducteur forage.
Donc le conducteur de forage, c'est lui en fait qui s'occupe du cerveau du forage, c'est-à-dire la marche des machines, est-ce que les vannes sont bien ouvertes, est-ce que la machine fonctionne bien, est-ce qu'il n'y a pas un problème de moteur, est-ce que le moteur est bien alimenté en huile, est-ce que le gasoil est bien présent, et est-ce qu'il y a des réserves, est-ce que les tuyaux de refoulement qui amène l'eau vers le château d'eau et qui redescend sur marche normalement. Tout ça, ça fait partie du travail du conducteur de forage. C'est un superviseur, en quelque sorte, de la bonne marche du forage.
Est-ce qu'il a une formation pour faire ce travail?
Bien sûr, on a fait des formations à Louga depuis 2016-2017. On a fait ça à 3 mois à Louga pour les formations des conducteurs de forage 2016-2017. On a obtenu notre diplôme conducteur de forage à Louga.
Alors, je vois le château d'eau.
Château d'eau, oui. Ça permet de réserver l'eau, moi, garder l'eau pour moi.
Donc, le château d'eau, c'est en fait l'instrument de stockage de l'eau. Quand vous pompez, dès que le château d'eau est rempli à bord, vous coupez les machines et vous ouvrez les vannes. C'est à partir de là que l'eau est distribuée jusque dans les villages polarisés. Ce qui permet, mais par un système de distribution de l'eau, des éruptions d'eau, d'alimenter les autres villages qui ont aussi des abreuvoirs et des bornes fontaines.
Et tout va charrer.
Donc, dans les villages polarisés, c'est des bornes fontaines. Mm-hmm. Et dans les zones d'élevage, c'est des abreuvoirs.
On a 8 bornes fontaines, 4 abreuvoirs, 2 potences.
Donc, ils ont ici alimenté par le forage 4 abreuvoirs, 8 bornes fontaines et 2 potences.
C'est quoi une potence?
Donc la potence est réservée exclusivement à ceux qui viennent chercher de l'eau de très loin, qui utilisent soit des chambres à air, soit d'autres instruments qui ont besoin d'être remplis avec une grande pression. Parce que à partir de 1 mètre cube jusqu'à un peu plus. Parce que ça c'est difficile de les remplir avec des robinets. Donc on utilise la potence qui est un peu plus perchée et qui peut alimenter directement une charrette avec une grande chambre à air qui fait 2, 3 ou 5 mètres.
Pour ñi mëna am ndox, loolu mom potence, loolu mom rôle, loolu mom lay jari.
Ah, si j'ai bien compris, il y a les villages polarisés comme il a dit, il y a des tuyaux dans le sol qui vont jusque là-bas.
C'est ça.
Et il y a les abreuvoirs, il y a des tuyaux qui vont jusque là-bas.
C'est ça.
Et les deux potences, c'est pour les villages qui ne sont pas polarisés et qui viennent chercher de l'eau.
Wa potence bi non seulement moy village yi amul ndox man nañ ci ñëw de bénéficier mais les transhumants mangani
c'est en fait beaucoup de monde qui se trouve dans les villages polarisés peuvent venir chercher de l'eau mais c'est surtout utilisé par les transhumants qui peuvent abreuver des petits ruminants qui ne sont pas toujours en mesure de boire dans des abreuvoirs comme ça parce qu'il est un peu trop haut et l'eau est parfois un peu basse.
Ah, ça c'est dimensionné pour les vaches.
C'est surtout pour les bovins.
Oui.
Parce que c'est la hauteur est telle que les petits ruminants ont de la peine à atteindre l'eau.
Ah, parce que là on est sur un axe de transhumance.
Bien sûr, dès que vous avez un transhumant, parce que amne ça.
Bien sûr, parce que pas loin d'ici, nous avons un parcours de transhumant qui a été d'ailleurs, comment dirais-je, tracé par le PRAPS et qui a été identifié aussi avec des balises qui sont piquées tout au long du trajet pour éviter justement les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Et c'est pourquoi tous les forages qui sont construits dans cette zone-là sont situés dans les axes de transhumance pour faciliter la mise à disposition de l'eau.
Une unité pastorale doit intégrer les données essentielles. Une grande préoccupation dans la zone où nous sommes, c'est la transhumance. Il faut donc s'entendre sur les voies de passage, équiper ces voies de transhumance, prévoir de l'eau en quantité suffisante, En somme, tout ce qui favorise la cohabitation et la bonne entente entre agriculteurs et éleveurs.
Pour même éviter les conflits entre agriculteurs et bergers, tant que les éleveurs.
C'est pour éviter la divagation des animaux et éviter autant que faire se peut le conflit entre des agriculteurs et des éleveurs qui peuvent tourner parfois en drame, qu'il y a un cadre de concertation qui se réunit et qui réunit tous les acteurs tournant autour de l'élevage et de l'agriculture, y compris les autorités administratives et les autorités locales. Et c'est à partir de là qu'une décision consensuelle a été prise pour avoir un couloir de transhumance. Dans cette zone-là, il y en a trois qui sont bien identifiés.
Ah, c'est pour ça qu'on rencontre tous ces animaux-là dès qu'on est approché ici.
Donc la proximité du couloir de transhumance permet aux bergers de se rapprocher du village et de venir abreuver leurs animaux avant de continuer leur trajet. À l'aller comme au retour. Parce que la transhumance, ça commence au mois de novembre-décembre et ça se termine vers le mois de juin-juillet. Mais à l'aller comme au retour, ils passent par les axes où il y a de l'eau pour pouvoir abreuver leurs animaux et continuer tranquillement leur transhumance.
C'est-à-dire en novembre, il y a eu la récolte, ça commence à sécher, ils descendent au fur et à mesure et quand la pluie revient, ils remontent.
Effectivement, la saison des récoltes,
la transhumance en fait respecte une logique, c'est-à-dire qu'à partir des récoltes, les gens commencent à abandonner les champs et il y a encore beaucoup plus de nourriture pour les animaux et ils viennent au fur et à mesure qu'on récolte, ils broutent les produits post-récolte et s'en vont de plus en plus vers le sud. Et à la tombée des pluies, ils font le chemin inverse, c'est-à-dire qu'ils retournent vers la zone nord, la zone sylvopastorale, où il y a moins de culture, parce qu'ici c'est extrêmement cultivé. C'est une zone fertile où il y a beaucoup de champs. Donc il y a beaucoup de risques de conflit pendant l'hivernage. C'est pourquoi ils ne restent pas ici pendant l'hivernage, ils retournent au Djolof, et où il y a moins de conflits, parce qu'il y a moins de terres cultivées, et il y a plus de possibilités de faire paître leurs animaux sans rentrer en conflit avec qui que ce soit.
Retourne pour dem.
Bon, on sait aussi qu'une vache ne peut pas marcher toute la journée. Donc, en fait, quand ils viennent à l'abreuvoir, ils profitent aussi pour se reposer.
Bien sûr, madame. Marcher des kilomètres.
Oui, c'est ça, parce que quand vous parcourez ici la zone, il y a des transhumants, par exemple, qui font 4 jours, 5 jours autour des points d'eau. Parce que là, c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'eau sans marcher sur de longues distances. Mais dès que les conditions changent, c'est-à-dire les conditions d'alimentation et autres, il n'y a plus d'herbe autour. Ils se déplacent et ils vont un peu plus loin, vers le sud, où il y a peut-être la possibilité de trouver encore plus d'herbe.
Moi, je veux lui dire merci parce qu'il a laissé son château d'eau et tout ça et il est venu nous recevoir ce matin.
Nous sommes très contents, nous sommes très fiers d'avoir parlé de tout ça avec vous. Donc, je vous remercie.
Nous étions à Medina Salam, une localité située dans la région de Kaffrine au Sénégal. Dans ce village, nous avions rendez-vous avec les responsables et techniciens de l'unité pastorale mise en place par le projet d'appui au pastoralisme au Sahel. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, www.rfi.fr. Pour nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.
Autour de la